salut Daniel, je suis en train d'écouter ton émission là, avec Ruffin. Oh, ça me fait marrer parce que c'est trop rigolo quand même. Et il a quand même échappé belle, Ruffin. Bon, allez, salut.
Bonjour Daniel Mermet, c'est Sophie de Lille et bonjour François Ruffin, journaliste de l'extrême hein, qui ose mener son micro au pays des neurones décimés. Ils sont beaux les chefs d'entreprise qui vont sauver la France de la menace colcovienne. Alors à tous ceux qui conduisent sans permis, qui vont à l'enterrement des cons, et qui traite les femmes de pipeuses, je voudrais dédier le vomi que j'ai au bord des lèvres. Voilà. Allez, courage François, hein. Ça doit pas être facile tous les jours.
Oui, ben moi je viens d'écouter l'émission, je suis vraiment... je rigole, en même temps, ça me fait du bien parce que par rapport à l'émission d'hier, mais vraiment, c'est super, c'est des variations de thèmes, bravo. Mais fais gaffe, Mermet, hein, parce que passer des horreurs pareilles à 15h, là, tu vas te faire taper sur les doigts, je pense. Allez, continuez. On vous aime, merci. C'était Dominique Arène.
Béatrice Roussel, bonjour. Je voulais juste vous dire que j'ai pas signé la pétition pour le maintien de l'émission pour écouter le genre d'émission d'hier. Je n'ai eu que la deuxième partie, mais j'ai pas envie d'écouter ça, vraiment pas. J'ai l'impression que vous faites tout ce qu'il faut pour que votre émission passe à 2h du matin. Non, j'ai pas envie d'écouter ce genre de propos. C'est pas le journal du Hard de France Inter. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis pas une mal baisée. Je préviens déjà d'éventuelles réactions. Mais j'ai pas envie d'entendre ce genre de propos. Ça ne m'intéresse pas. Au revoir.
Ouais, salut Mermet. C'est Eric du Gers. Je suis au mot comme Jean-François, là, que tu viens de passer dans ton émission. Là. Il est trop cool, ce mec. Trop cool. Et sa partie de drague et de pipe dans les bois autour de Limoges, là, ça m'a rappelé les containers à Bordeaux. Ceux qui ont connu s'en souviendront, et des parties mémorables, des partouzes mémorables quand il y a passé là-dedans. Et mais dans l'adresse de son restaurant, j'irai manger son pot-au-feu, t'avais l'air étonné de trouver des menus à 11 euros. Mais ça existe, les menus à 11 euros. Je mange tous les jours à 11 euros. Je suis routier et je mange tous les jours à 11 euros. Et avec le potage, le hors d'œuvre, le repas, le dessert, enfin la complète, quoi. Et le quart de vin, rosé ou rouge, comme au choix. Mais pour en revenir à ton émission, non, il était trop cool, le mec. Hein. Trop cool. Donne l'adresse à son restaurant, on ira y manger. On ira le manger, son pot-au-feu. Voilà, c'était Eric. Allez, salut.
Sur France Inter, et même à la base si j'y suis, tous les avis ne sont pas bons à entendre. Et oui, même à la base si j'y suis. Quand un patron parle des charges trop élevées, on le fait bien vite taire, au cas où l'auditeur serait bien trop stupide pour se faire une idée lui-même sur la question. Et Dieu sait quel triste attachement l'auditeur modeste et génial a pour le patronat. Par contre, quand le même individu se répand sur sa manière de mépriser les autres par son égoïsme sexuel, son manque de considération pour l'être humain, son manque d'engagement affectif, pas de mise en garde, aucune réflexion, aucune analyse. Comment, alors que vous savez être si pertinent et si perspicace par votre regard sur le monde qui nous entoure, dissociez-vous toujours, à la base si j'y suis, le corps de l'esprit? Le sexe peut prendre, peut jeter, peut abîmer et ne doit surtout pas s'engager. On trouve cela bien. Mais, paradoxalement, on dénonce avec brio ces patrons qui prennent, qui jettent, qui abîment et qui surtout ne s'engagent pas. Il faut être plus cohérent avec vous-même et continuer de dénoncer tous les égoïsmes. Vous pourrez peut-être alors prétendre à vraiment être qualifié de modeste et génial. Un auditeur modeste et génial.
Oui, bonjour. On vous imaginait déjà avoir eu des problèmes avec votre père, sans doute, pour combattre toutes les représentations possibles de l'autorité. On vous devinait un petit peu pervers. Ben, l'émission du 12 octobre le confirme, malheureusement. Arrêtez, s'il vous plaît.
Oui, salut. Moi, je téléphonais pour l'émission d'hier, là, le cuisinier tellement sympa et rigolo. Bon, ben, au début, c'était très bien. Et puis, à la fin, c'était carrément gore, quoi. Je veux dire, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'enregistrer son petit asticotage dans les bois? Bon, ben voilà, moi, j'ai pas envie d'aller bouffer dans son resto. Pourtant, au début, ça me faisait bien envie. Et j'espère qu'il se lave les mains quand il sert son pot-au-feu. Allez, salut.
Bonjour, là-bas si j'y suis. Emmanuel de Paris, 18e. Bon, bah pour une fois, participation à l'émission m'a fait mourir de rire. Ça remonte un peu le moral, parce qu'en général, on a tout les boules à la fin de ton émission, même si elles sont géniales. Il faudra dire à ce sympathique petit commerçant, néanmoins artiste, que le problème, c'est pas les charges, le problème, c'est la répartition des charges. Voilà, quand on voit ce que gagnent les grands patrons du style L'Oréal, Michelin, Vinci, Vivendi, c'est-à-dire les plus grosses fortunes du CAC 40, il faudrait aller voir de ce côté-là et faire comprendre aux artisans que le problème, c'est pas les charges, mais la répartition des richesses. Bon, ben, je vous salue bien tous et encore bravo pour cette émission qui rue un peu dans les brancards. Ciao.
Salut Mermé, salut Christophe. Dis Mermé, tu cherches le bâton pour te battre, te faire battre, hein? Oh, tu exagères. N'empêche que c'était bon de passer à l'honneur de nos blancs, de l'église, du verrou de Saint-Léonard que touchent les dames qui ont mal d'enfants, hein. Mais aussi c'est la patrie de Gay-Lussac, hein, et puis de Poupou, Poulidor. C'est vrai, t'as raison, les massepains, c'est bon. Mais j'aurais bien le trouvé, hein, ton restaurateur, là. Il est plus cher, il est moins cher que ton ami de Gensio, hein. Oh là là, la nostalgie, les jardins de l'évêché, est-ce que c'est beau, descendre vers la Vienne, près du pont Saint-Étienne, passer près de la borne ou de Richard Cœur de Lion. Quelle nostalgie, merci Mermé, oh, mais t'exagères. Bisous à toute l'équipe.
C'est vrai qu'on a des auditeurs modestes et géniaux, mais c'est vrai, hein, c'est pas une, c'est ni de la démago, ni un truc en l'air. Vous avez entendu cette série de messages suite au reportage de l'infâme François Ruffin. C'était en dessous de tout ce qu'on a entendu hier dans la basse, si j'y suis. Ça en a fait rigoler certains, ça en a indigné pas mal, il faut dire. Voilà, c'était comme ça. Et aujourd'hui, on passe à tout à fait autre chose. Un livre important sort aujourd'hui même, intitulé « La France invisible » aux éditions de La Découverte. Et c'est un travail, lui aussi, modeste et génial, auquel se sont livrés trois... L'un, un chercheur, un sociologue, Stéphane Beau, et deux journalistes, Joseph Confavreux et Jade Lingart. L'idée, le projet de montrer cette France invisible. Qu'est-ce que c'est cette France invisible? Eh bien, vous allez découvrir ce qu'ils entendent par là. Mais vous avez déjà compris qu'il s'agit de, comme on disait, les sans-voix, les no-vox, c'est-à-dire tous ceux qui ne rentrent pas dans les considérations générales, dans la représentation que l'on se fait de nous-mêmes, de notre pays, c'est-à-dire rémistes, travailleurs pauvres, sans papiers, sans adresse, chômeurs, etc. Tous ceux qui sont sous ces étiquettes stigmatisantes, qui ne sont pas, si vous écoutez une journée de radio, si vous regardez une journée de télé, c'est rare, il y a un truc spécial de temps en temps, un sujet de société, des cas sociaux, mais on n'a pas dans la représentation que l'on se fait de notre société, de notre petit monde hexagonal, la perception de cette France-là. Donc ils se sont attachés à essayer de la montrer, évidemment, dans la perspective des élections prochaines et en référence aux surprises précédentes, celle de 2002 avec un Le Pen au second tour et celle du 29 mai 2005 avec le non au projet de constitution européenne. À chaque fois, oh là là, surprise, on s'est trompé, les sondeurs se sont trompés, les journalistes se sont trompés, les commentateurs se sont trompés, ça dure une, deux, trois semaines et puis hop, on reprend le chemin habituel, le cheminement habituel. Peut-être que cette fois-ci, ce livre servira à quelque chose. En tout cas, nous le souhaitons. On va passer avec les auteurs cette heure ensemble. Après les messages, que voici d'autres messages sur le répondeur de la basse, si j'y suis, amis modestes et géniaux, au 01 56 40 37 37.
Allô, salut Daniel Mermet et toute son équipe, c'est Patrick. Je voulais dire, j'ai entendu ce matin à propos de Guillaume Durand qu'il a oublié de déclarer 4 millions de francs. Non, mais c'est dingue, ça. 400 bris qu'il a oublié de déclarer. Putain, mais pourquoi on paye autant les animateurs de télé? Ça me déglingue. Mais aucun animateur mérite un salaire pareil, quoi. Si c'est pas lui qui est là, c'est un autre, quoi.
Je comprends pas pourquoi on nous dit ils vont nous augmenter la taxe de télévision pour donner 400 briques à des mecs pareils, quoi. Ça me déglingue. Et quand je vois ces mecs, après, qui sont là, donner pour le sida, donner pour les vieux, donner pour ci, donner pour là, alors qu'ils oublient de déclarer 4 millions de francs et qu'ils demandent aux smicards de payer, comme l'autre jour, la femme à Chirac, qui était là avec ce camp de Drucker, qui gagne aussi des sommes astronomiques, et qui sont là, donner des sous, donner pour l'hôpital, donner pour les vieux, alors qu'on sait qu'il n'y a même pas 10% qui y vont. Moi, j'arrête, je peux plus donner, je peux plus donner. Quand des mecs comme ça me demandent de donner, je peux plus, j'arrête, quoi. C'est pas possible. Voilà, c'était un petit coup de colère de la région Rhône-Alpes. Salut, merci, ciao.
Oui, bonjour, Daniel. Bonjour à toute l'équipe. Yves Delan. Une grosse surprise ce matin en allant dans le site www.impots.gouv.fr pour un problème d'impôt foncier que je voulais régler. Dans les liens commerciaux de ce site, il y en a deux exactement, hein, qui concernent les avis d'imposition tout à fait normal. L'autre pavé, soutenez Nicolas Sarkozy, contribuez aux actions de l'UMP, faites un don déductible à 66%. Voilà. Ben voilà la grosse démocratie. Et voilà, merci Monsieur Sarkozy. J'espère que personne n'ira sur le site pour vous filer le pognon. Allez, ben à bientôt.
Magnifique mensonge et brin de vérité. Le meilleur moyen de ne jamais dire de bêtises n'est-il pas de mentir? Et partir du mot pour arriver quelque part, est-ce se tromper de route? Car les mots brandissent leur bannière comme des étendards, comme autant de drapeaux. Je sais quel feu m'attise, de quel bois je me sauve, à quelle source je m'abreuve et quelle est ma hantise. Que la source soit tarie. À la barre au banc, les syllabes s'enchaînent, princières s'emballent, se renvoient la balle, se font la belle. Voulez-vous vraiment que le rêve nous épargne? Et ramasser plus loin nos illusions, nos interludes épars. Voulez-vous vraiment que l'on cède le pas que le prosaïque nous possède, que sans concession le monotone prenne part au festin qui précède? Je vous pose la question, je vous le dis sans hargne.
C'est Daniel Mermet, c'est la base, j'y suis. La France invisible avec Stéphane Beau, Joseph Confavreux et Jade Linga. Flight number 2, arriving from New York. Je ne sais pas si vous allez faire plaisir à Benoît XVI. Tous les trois aujourd'hui, Benoît XVI a déclaré, ça ne vous a pas échappé, puisque vous êtes des observateurs, des journalistes, des chercheurs, etc. Benoît XVI a déclaré récemment: il y a de plus en plus de social et pas assez de Dieu. On parle trop de social et pas assez de Dieu. C'est le point de vue du pape, hein, que, oui. je vous livre là, pour commencer. Or, vous allez faire de la peine à Benoît XVI parce que vous parlez quand même beaucoup, beaucoup de social dans ce bouquin que vous avez co-dirigé tous les trois, qui s'intitule « La France invisible ». Et j'ai autour de moi Jade Lingart, Joseph Confavreux et Stéphane Beau. Alors, Jade Lingart, elle est journaliste, elle travaille aux Inrecuptibles. Elle est l'auteur, la co-auteur d'un bouquin sur BHL, un des innombrables bouquins sur BHL, mais qui a eu le mérite d'être parmi les premiers, le B.A.B.A. du BHL. Et puis, Joseph Confavreux, notre confrère de France Culture, qui travaille également à la rédaction de la revue Vacarme, et Stéphane Beau, le sociologue bien connu, qui s'est associé donc à ces deux autres pour diriger ce bouquin qui fait appel à toute une série de chercheurs, d'enquêteurs, de journalistes qui tous nous rendent une France méconnue, mal connue et que vous essayez de mettre en lumière. Comment est née l'idée? Qui explique? Jade?
Ben, l'idée est née en fait de conversations communes à certains des membres de l'équipe, donc certains des journalistes et l'éditeur, la découverte autour du sentiment d'une question sociale qui se poserait aujourd'hui différemment et qui ne nous semblait pas abordée en tant que telle la plupart du temps dans le débat public. Et venait avec ça l'idée d'une situation d'urgence. Une situation d'urgence face à une précarité grandissante et une contradiction finalement entre d'un côté une pauvreté, une précarité grandissante et un discours politique et économique très rassurant. La baisse du chiffre du chômage, l'amélioration de pas mal de statistiques. Et on s'est dit, il y a comme un écart qui est intéressant à creuser. Et de ce sentiment d'urgence est née la nécessité pour nous de faire travailler des journalistes qui ont l'habitude de travailler de manière plus rapide que la plupart des chercheurs.
Oui, que les chercheurs.
Voilà.
Ouais.
Mais en même temps, le grand souci pour ces mêmes journalistes, de pour une fois sortir des écueils qui peuvent être les leurs dans leur travail quotidien ou hebdomadaire, dans leurs journaux et dans leurs radios respectives ou télé respectives, qui est celui d'un enfermement dans des pages sociétés de plus en plus réduites, d'un registre du social qui est souvent traité sur un mode assez folklorisant. Et donc pour cela, ces journalistes-là, ils avaient besoin de collaborer avec des chercheurs qui, eux, pouvaient s'appuyer sur des travaux plus anciens, plus profonds, plus généraux. Donc il y avait l'idée d'un dispositif d'urgence pour une situation d'urgence et qui a conduit à ce bouquin.
Nous sommes cernés par les cibles. 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 Quand on brûle notre maison et que l'on sort notre cadavre par la fenêtre, nous sommes cernés par les cibles. Quand la nuit est un seul médicament qui recouvre toute la terre, nous sommes cernés par les cibles. Quand la lune tombe dans la mer comme une bombe et laisse un zéro à la place du ciel, nous sommes cernés par les cibles. Quand nous n'avons plus qu'un pistolet devant 40 000 avions, nous sommes cernés par les cibles. Nous sommes cernés par les cibles. Nous sommes cernés par les cibles. Nous sommes cernés par les cibles.
Joseph Fonfabre, quelques exemples de ces Français invisibles, de cette France invisible.
Alors, on
comprend de quoi vous parlez en gros.
Au début, on s'était dit, on va réunir ça selon des grandes catégories, le travail, la santé. À chaque fois, il y a des populations qui sont oubliées. Et puis finalement, on a décidé que l'idée, c'était précisément de briser un peu les représentations du monde social qui étaient produites par la statistique publique, par les représentations médiatiques. Et donc, on a décidé de fonctionner par abécédaire. Donc, il y a un côté, si on lit la table des matières, on a un côté... inventaire à la Prévert, hein, banlieusard, délocalisé, démotivé, discriminé, disparu, dissimulé, ça concerne plus l'homosexualité, drogué, égaré, enfermé, expulsable. L'idée, c'était précisément d'avoir à la fois des catégories de gens qui sont les victimes des nouvelles politiques publiques ou des nouvelles violences sociales, des nouvelles formes de violences sociales produites par des politiques qui, justement, font violence aux sociales, mais d'avoir aussi tous ces gens qui font partie de ce qu'on appelait les hommes et les femmes sans qualité, c'est-à-dire des gens qui sont pas la grande misère, mais qui sont à la frontière, qui sont dans toutes ces zones d'ombre, ces zones tampons, ces trous noirs, et qui du coup n'existent pas ni dans le discours public, ni vraiment dans les politiques publiques, alors qu'elles sont victimes de méconnaissance ou de manque de reconnaissance. Donc d'articuler et également de parler, alors là on a des catégories qui sont plus identifiées, a priori gens du voyage, discriminés, c'est des choses dont on parle, mais dont on parle toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des politiques pour les handicapés, il y a des politiques pour les discriminés, donc on a l'impression que le problème est réglé, alors que l'idée du livre c'était de montrer par la force de la description, vraiment d'aller enquêter, de montrer des témoignages que c'est pas la météo, il y a des chômeurs, mais ça augmente ou ça baisse, enfin d'incarner. Ce qui est le monde social aujourd'hui et qui dépasse souvent ce qui en est dit.
Pourquoi est-ce que les journalistes n'arrivent pas à décrire leur propre monde, le nôtre, enfin la France? Pourquoi est-ce que les médias n'arrivent pas à rendre compte de ça?
Je pense qu'il y a plusieurs...
Ça devrait être leur fonction, leur vocation, leur rôle a priori.
Oui, non, mais vous avez raison. Je pense que il faut après prendre des exemples précis, en fait, pour essayer de répondre honnêtement à cette question, parce que on connaît tous des journalistes qui ne peuvent pas faire le travail qu'ils le souhaiteraient dans leurs médias respectifs. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes aussi de structure, de consignes de rédacteur en chef, d'espace dans les journaux, de réduction de pagination, qui sont structurelles en quelque sorte et qui pèsent sur eux dans le travail au quotidien. Après, je pense que la question question plus généralement qui est posée et qui est une question difficile, c'est finalement celle de comment faire pour parler du monde social quand il n'est pas que sur un mode spectaculaire. C'est-à-dire que on a vu cet été l'exemple de la polémique autour de la distribution par Médecins du Monde de tentes au SDF parisien. Ouais, c'était très intéressant de voir que cette polémique a engendré toute une série de papiers et d'enquêtes parfois très intéressants sur la question des nouveaux visages, de l'errance et des sans-domicile fixe. Or, il a fallu que ces SDF soient mis sous des tentes, donc deviennent brusquement très spectaculaires, pour que ça fasse l'objet d'articles et d'enquêtes. Donc pourquoi ? Parce que on se rend compte que ces journaux et ces journalistes sont soumis à des impératifs qui sont en partie marchands, mais en partie de séduction, finalement, enfin, même si le terme peut paraître un peu choquant, mais pour vendre, entre guillemets, leur papier à leur rédaction. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une rédaction et que vous dites « Ah, c'est très intéressant, les nouveaux visages de l'errance, vous savez que la plupart des SDF ne dorment pas dans la rue, qu'ils sont dans des situations de cohabitation forcée ou dans des centres d'hébergement, c'est pas du tout la figure du clochard habituel. Ben, » si vous dites ça, on va vous dire « Oh, ben, c'est très intéressant, et passez à autre chose. » Par contre, si vous arrivez en disant « Oh, il y a une polémique là, formidable, étante, etc. » on va vous dire « Ah ben là, il y a un sujet, parce que c'est l'actualité. » Je pense que la notion d'actualité est l'un des principaux handicaps, finalement, du travail du journaliste social. Parce qu'il faut donner l'impression, ou en tout cas émettre l'idée, qu'il se passe quelque chose de nouveau. Donc c'est toujours nouveau. Donc c'est nouveau, donc ça rompt, donc ça casse avec ce qui précède, et donc ça mérite un papier. Or, on se rend compte que, évidemment, c'est un rythme qui est complètement en décalage avec le rythme du monde social, qui lui change, évidemment, mais sur des temporalités complètement différentes. Il y a un article, il y a un chapitre dans le livre qui fait une étude comparative entre le sort du mot « travailleur pauvre » et le sort du mot « bobo » dans la presse française, avec le bobo qui aussitôt remporte un énorme succès, est repris partout et devient une notion très installée, alors que la notion de travailleur pauvre, depuis 10 ans, est régulièrement redécouverte par les journalistes. C'est-à-dire que régulièrement, on dit « Ah, un nouveau concept, les travailleurs pauvres ». L'année d'après, « Ah, il y a un nouveau concept pour parler des précaires, c'est les travailleurs pauvres ». Vous voyez, il faut faire passer l'idée que c'est nouveau pour que ça aille droit au chapitre dans les journaux. Et là, cette notion d'actualité, à mon avis, est l'un des principaux objets à déconstruire si on veut faire un travail social de journaliste, d'investigation en profondeur.
Stéphane Beau.
Peut-être que, justement, par rapport à cette question de journaliste, peut-être que c'est en train de changer. Par exemple, je pense qu'il y a une insatisfaction, notamment dans les jeunes générations, de la manière dont les journalistes sont formés. On sait très bien là, le bouquin de Ruffin, etc. Bon, voilà, le prêt-à-penser.
De François Ruffin, de là-bas, si j'y suis, voilà. Le prestigieux.
Non, mais je donner un simple exemple, le fait qu'effectivement, juste. Comme ça, pour votre gouverne, c'est intéressant de voir qu'il y a des formations en master aujourd'hui, je crois, à la fois à l'IEP de Rennes et à Dauphine. On va créer des formations, information journalistique et sociale pour justement, il y a des sociologues, il y a des politistes qui se sont rendus compte que peut-être l'université pourrait jouer ce rôle-là de former davantage les journalistes à l'enquête ethnographique, aux sciences sociales, pour les armer davantage qu'ils ne sont armés quand ils sortent des concours, entre guillemets, dites des meilleures écoles de journalisme. Là, il y a un vrai enjeu de formation et là, l'université, à mon avis, joue ce rôle, je pense, aujourd'hui, quoi, va jouer ce rôle à travers ces masters qui soient un peu décalés par rapport à la formation standard de journaliste, justement en intégrant l'apport qui me paraît décisif des sciences sociales, notamment toutes les techniques autour de l'entretien et de l'enquête.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez par mois 800 euros,
oui.
Le loyer il est de 600 euros, Il reste 200 euros pour vivre par mois.
Voilà, ben, il faut que je me débrouille, il faut bien. Des fois, je vais au Secours Populaire, il n'y a pas de honte, faut bien que j'y arrive. Ils me donnent un peu de sucre, une bouteille d'huile, un petit, ça dépanne, j'ai pas de honte.
Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation ?
Eh ben, c'est depuis que mon mari, il était depuis qu'il ne travaille plus, donc depuis 98. Parce qu'avant, il travaillait chez Charpin, c'est vrai que ça change, parce que chez Charpin, en francs, il gagnait 12 000 francs par mois. C'est pour ça que j'ai fait mes papiers de retraite, là, ça y est, j'étais voir, comme ça, je dis au mois de juin, oh, ça va aider un peu si j'ai ma petite retraite quand même.
Et si en juin, on ne vous donne pas la retraite ?
Ah, ben, ils sont bien obligés de me... Même si j'ai pas beaucoup, quand même, la retraite, ils sont obligés de calculer les petits points, mais même si j'ai que 20 euros, c'est toujours 20 euros, ben tiens.
Qu'est-ce que vous faites avec 20 euros, justement ?
Eh ben, 20 euros, je vais au magasin, à la grande surface, et hop, je remplis mon frigo. Enfin, je remplis, façon de parler, hein.
Dans l'appartement, il y a vous, il y a votre mari, il y a votre fille Angélique.
Voilà.
À manger pour combien de temps avec 20 euros, vous ?
Avec 20 euros ? Bon, on va être francs, 3 jours.
Pour 3 personnes ?
pour trois personnes. Oh, mais je suis maligne, hein. Je suis de l'aube, hein, je vous l'ai dit. Hein. Chez ma grand-mère, à Plaine-Salange, hein. Et ben, on est économe. On fait du manger de campagne. Avec des pommes de terre, on fait beaucoup de choses, selon comment on les accommode. Ouais. Vous pouvez manger des pommes de terre, et puis le lendemain, les pommes de terre, ça ne va pas être la même chose, parce qu'on ne les aura pas faites de la même manière. Il faut se débrouiller.
Les Français que la France occulte, on pourrait dire, c'est toute cette partie de la France dans l'ombre par rapport à quelle lumière ? Ben, la lumière des projecteurs, des médias qui ne s'assignent pas la fonction, le rôle de représenter, de montrer toute la société. Alors qu'évidemment, c'est le rôle numéro un des journalistes, c'est le rôle aussi des chercheurs, enfin de tous ceux qui sont payés pour ça, après tout, pour montrer aux uns comment vivent les autres, mais tous les autres, à tous les uns. Et voilà, d'où la nécessité de ce livre, La France invisible, on est avec, qui sort aujourd'hui aux éditions de la Découverte, un gros bouquin, mais absolument passionnant, de Stéphane Beau, Joseph Confavreux et Jade Lingard. Vous avez une formule terrible, hein, que j'ai notée au passage, vos invisibles, cette France invisible et ces peuples des invisibles, parce qu'ils sont nombreux.
Nombreux, ils se recoupent, c'est pas des catégories étanches.
Oui, bien sûr. Oui. Et vous dites, c'est des dégâts collatéraux acceptables. C'est-à-dire que peu à peu, effectivement, on s'est habitué, on dit bon, ben voilà, c'est comme ça, quoi. Une sorte d'évidence qui ferait que, ben, une société, ça fonctionne comme ça. Et puis, ben voilà, hélas, ça fait, voilà, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, c'est les œufs cassés, quoi. Voilà.
Oui, parce que je pense que pour articuler avec la question du journalisme, c'est pas un problème seulement endogène aux médias ou aux journalistes. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire nouveau, mais finalement, on enchaîne les nouveautés, on enchaîne même les surprises sociales, et ça n'a pas d'action. C'est l'impression qu'on sait des choses. Hein. Là, nous, on fait une synthèse, une synthèse descriptive, mais qui veut la
ça,
force
de ça.
Ça,
c'est impressionnant, parce que déjà, votre bouquin fait 600...
Oui, 600. Si, voilà, ça dépasse 600. Les 600 pages. Non, mais c'est-à-dire que même en voulant faire une synthèse fervente, on dépasse les 600 pages.
Voilà, vous avez une bibliographie copieuse. Chaque chapitre, chaque domaine comporte une bibliographie qui renvoie à des sites, des études, des blogs. C'est extraordinaire. On sait tout, quoi.
On sait tout, mais du coup, on ne sait pas
grand-chose.
Et ça
sert à rien.
Voilà, c'est que des fois, ça sert à rien.
Comment expliquer ça, Joseph ? Comment expliquer l'un de vous trois, comment il se peut ? Moi, je suis d'une génération, on se disait, on avait l'impression, c'était pas une impression, c'était une certitude, qu'on manquait. Plus il y aura de bouquins, plus il y aura de journaux, plus la lumière s'installera. Or, c'est faux.
Oui, parce que maintenant, la question, c'est pas seulement le contrôle de l'information. Enfin, c'était par rapport à l'image d'une information qui serait possédée par quelques-uns. Là, aujourd'hui, on a... Mais c'est comment se repérer dans ce qu'on a aussi appelé une sorte de kaléidoscope complètement borgne. C'est-à-dire qu'il y a de tout, et on sait plus hiérarchiser. Et du coup, on arrive à un vague, en fait, une sorte de terrain vague social, et qui crée cette espèce de pseudo-démocratie d'opinion à la Ségolène Royal. C'est-à-dire qu'on va pas dire, on va dire, ah ben moi je pense ce que pense, et puis on choisit, on crée, on incarne des réalités fausses. Et je pense que c'est le livre, il part de cette volonté de se dire, voilà, par rapport à ça, c'est important que chacun reste pas dans ses cloisonnements disciplinaires. Évidemment, journaliste. Mais c'est important aussi de ne pas faire la grande soupe de l'interdisciplinarité, de on mélange tout. Et donc de choisir. Et choisir, c'est choisir des portraits, des reportages et produire. C'est pas un hasard si ça sort maintenant ou déjà la campagne électorale est une fausse campagne. Voilà, c'est de dire, regardez, ça c'est un répertoire d'exemples politiques. C'est-à-dire que chacune des personnes qui parlent, chacune des enquêtes qui ont été faites, elles ont, il faut trouver une solution. Et ce n'est pas une solution de mots.
Là, vous êtes en train de nous expliquer comment votre approche, vous, de chercheur, de journaliste, mais il y a aussi votre bouquin, il est constitué beaucoup de témoignages des invisibles en question. Et j'en prends un au hasard qui m'a beaucoup frappé. C'est un texte rédigé par des détenus de la centrale de Clairvaux. C'est très récent, c'est 16 janvier 2006, et qui, à travers un texte absolument poignant, disent « Nous voulons être mis à mort. Nous demandons la peine de mort effective. Nous préférons la peine de mort à ce que nous vivons dans cette prison. C'est extraordinairement fort, violent, provoquant, et ça dit ce qu'est la prison aujourd'hui. J'ai noté ça parce que on est en train de dire comment nous on fait. Enfin, on parle évidemment toujours de nous-mêmes, mais on oublie quand même qu'il s'agit des autres. Enfin, il s'agit de... comment ceux dont vous parlez reçoivent ça, ont accepté de participer à cette entreprise. Je me souviens que dans La misère du monde, Stéphane Beau, je me souviens que Bourdieu se pose la question de savoir ce que c'est que de parler au nom de ceux qui, si on n'allait pas vers eux, ne parleraient pas.
Je crois que l'une des surprises qu'on a eues et qu'on a eues en commun dans le cours de ce travail, sachant que chacun s'est un peu réparti en quelque sorte les sujets, les domaines et les types de population, ça a été de constater l'écho qu'avait auprès des gens rencontrés de la notion d'invisibilité. Je crois que c'est beaucoup au nom de cette notion d'invisibilité, sachant que leur parole allait figurer dans un livre qui allait s'appeler La France invisible, que ces personnes nous ont parlé. Et se sont livrées en confiance, je crois, la plupart du temps, mais avec le vrai souci d'un témoignage et d'un relais de leur témoignage. L'acte, c'était pas un acte anodin. Les rencontres ont parfois été très fortes, parfois difficiles. Quand il s'est agi soit de rencontrer des personnes en Algérie qui avaient été expulsées, des hommes, des pères de famille qui ont laissé derrière eux épouses, enfants, la plupart des cas, et qui expliquent qu'ils ont été obligés de répudier leurs femmes parce qu'ils ne pourront plus jamais vivre ensemble et que désormais leur vie se feront chacun de son côté et que ça ne se... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas deux mots pour dire ça, dit l'un de ces hommes. Ou quand on rencontre une mère de famille qui vit dans une tour au Val-Fouré, à côté de Mantes-la-Jolie, dans la banlieue de Mantes-la-Jolie, et que cette femme vit dans une tour qui a été vidée de ses habitants parce que le quartier est en pleine rénovation urbaine, mais qu'elle n'a pas encore été relogée, qu'elle en devient folle, qu'elle ne le supporte plus, et qu'elle se retrouve prisonnière de son propre appartement. Bien, là, par exemple, la rencontre a été difficile. Il y a eu un rendez-vous, un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, et au final, elle n'a pas voulu parler directement. C'est-à-dire, elle parlait à son fils, qui du coup servait d'intermédiaire en quelque sorte entre le journaliste et le témoin. Mais elle a fait ça parce que au bout d'un moment, pour elle, c'était devenu une manière de sortir du sentiment de honte finalement. Mmh. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça qui étaient fortes, et je crois que a beaucoup joué, en tout cas moi dans mon cas personnel, pour les personnes que j'ai rencontrées, a beaucoup joué le sentiment de la sortie d'un isolement. L'un des militants qu'on a rencontré, qui fait partie du collectif de soutien aux migrants du 10e arrondissement à Paris, nous a dit à un moment, vous savez, pour moi, aujourd'hui, s'il s'agit de définir l'action politique, bah, la lutte politique, elle se définit comme étant la lutte pour l'interrupteur. Nous, on se bat toujours pour l'allumer, et face à nous, on a des responsables politiques qui veulent toujours l'éteindre. Bah, c'était vraiment ça, l'esprit qu'on a retrouvé chez beaucoup de ces gens-là.
Là, c'est le farman.
Hein ?
C'est le farman.
C'est quoi le farman ?
Le farman, c'est du meuble, tu vois, il s'appelle le farman. Ça fait, là, il n'y a plus personne.
De quoi ?
Dans l'immeuble, il n'y a plus personne, il ne reste qu'une seule personne, c'est Antoine. Tout est vide. Les deux bâtiments, là, il reste quoi, Antoine ?
2, 4, 6, 8, 10 étages.
Bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ?
Ah bah !
Alors, c'est comment ?
Ça va ?
Bien ou quoi ?
Ça va ? Là, on était juste devant, là, il m'a dit Bocagne. Toi, t'habites ici, dans ce bâtiment. T'es tout seul.
C'est moi le chef du bâtiment, mon frère. J'habite tout seul, y a personne, aucun résident. C'est la cité Carter, mon pote.
Et comment ça se fait que t'habites tout seul dans cette tour? Elle est,
parce qu'ils doivent le détruire. Et c'est moi qui donne la décision de... Dès que l'immeuble détruit.
Dès que tu pars, boum.
Voilà, dès que je pars, il éclate. Tant que je pars pas, il éclate pas. C'est moi au contrôle.
Mais attends, c'est toi, Fino?
Ouais, voilà.
Antoine Fino.
Ouais, voilà, c'est ça.
Tu fais partie du Super Scrooge.
Super Scrooge. Ouais, ok.
Toi, t'as quel âge?
Moi, j'ai 27 ans, là, je vais sur les 28.
Et tu cherches du boulot?
Ah, bah ouais, à fond. À fond. Mais y'en a pas. Je crois que je passe au crime.
La dernière fois que t'as bossé, c'était quand?
Oh, y a 3-4 mois, là. 4 mois, 4-5 mois.
C'était dans quoi?
La restauration. C'était la restauration, c'était. Je faisais ça en extra, tu vois.
Ah, c'était un petit contrat?
Ouais, c'était des petits extras, tu vois.
T'as déjà eu un CDI?
Non. J'ai pas eu de CDI, moi. Tu vois, j'ai toujours travaillé avec des contrats à durée déterminée. Pas indéterminée, à durée déterminée. Ça veut dire. Il y a un début, il y a une fin, c'est tout. Tu commences le 10, tu finis le 12. Simple. Voilà. C'est pour ça. Ok. Bon, on se retrouve tout à l'heure, mon gars.
Ouais. À tout à l'heure, merci.
Autrefois, Stéphane Beau, si je pense aux années 50-60, les souffrances étaient nombreuses dans notre pays, puisque vous parlez du pays, vous parlez de la France, là. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait de toutes ces souffrances? J'ai l'impression qu'à l'époque, je pense aux Trente Glorieuses, en gros, toutes ces souffrances, qui étaient aussi diverses sans doute que celles que vous décrivez aujourd'hui, après tout, elles étaient comme fédérées dans une lecture sociale qui était celle de, ben, il y a des exploiteurs, puis il y a des exploités, puis il y a le monde des exploités, et puis ces exploités avaient un horizon. Un jour, voilà, il y aurait, on allait vers le mieux, quoi. Hein. Oui. Demain, ce sera mieux.
Il y avait un avenir collectif possible. Il y avait aussi, comme vous le dites bien, il y avait des mots politiques et sociaux, un langage de classe qui existait fortement, ce qui fait qu'effectivement, on pouvait être petit, entre guillemets, être pauvre en même temps, et puis en même temps, se sentir appartenir à la classe ouvrière, par exemple, ou aux classes populaires.
Se sentir appartenir à quelque chose de voilà, fort, qui avait une force.
Qui dépassait votre existence, avec une perspective d'avenir, d'amélioration des conditions de vie, etc. Donc c'est vrai que le changement est important et je trouve intéressant que vous citiez ce témoignage de détenu. Je crois que c'est Philippe Artière, qui est historien, qui a fait ce texte qui est tout à fait remarquable et intéressant. Ce témoignage-là, ce sont des détenus des longues peines qui n'ont aucun espoir de sortir, me semble intéressant et symptomatique. Mais je pense qu'effectivement, la question de tout ce que Bourdieu disait, voilà, le monde social existe deux fois, il existe dans la réalité, il existe dans les représentations. Et donc, dans les représentations, c'est vrai que la disparition ou la quasi-disparition du langage en termes de classe sociale, effectivement, nous laisse un peu orphelins de comment penser le monde social autrement, et parce que c'était aussi des instruments de lutte, dans les mots, dans les manières d'appartenir, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans une autre logique, et il est beaucoup plus difficile de construire de collectif à partir de l'absence de ces mots.
Est-ce qu'il y a une volonté politique et idéologique derrière tout ça?
En tout cas, en tant que sociologue, je me méfie toujours de tout ce qui pourrait être une sorte de conspiration.
Mais est-ce que vous avez raison de vous méfier?
Non, mais justement, je me méfie a priori. Je pense qu'effectivement, ça ne veut pas dire que, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas justement des entreprises idéologiques de manipulation, etc. Il y en a tous les jours en politique, bien évidemment. Mais que ce soit complètement orchestré, je dirais, je ne sais pas.
Je ne parle pas d'orchestration, mais je parle d'une doctrine inégalitaire, une idéologie de l'inégalité.
Effectivement, il y a là-dessus, bon voilà, il faut raisonner en termes d'idéologie. Il y a, pour dire les mots clairement, il y a effectivement une idéologie néolibérale qui s'est diffusée, installée dans les médias, dans la vie sociale. Et surtout, ce qui est important, là, en termes de sociologue, je pense qu'il y a l'idéologie néolibérale. Et ce qui est intéressant, c'est comment elle a pu pénétrer, notamment les milieux populaires. Il y a un sociologue qui s'appelle Michel Villette qui avait fait un 2-3 textes qui m'avait beaucoup frappé, en montrant comment justement cette idéologie néolibérale était appropriée par des vendeuses de supermarchés, de grandes surfaces, parce que finalement elles se retrouvaient là-dedans en disant finalement voilà, la vie c'est comme ça, c'est la jungle, il faut s'en sortir. Et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est non seulement qu'il y ait une idéologie, mais comment il faudrait là, on pourrait dire, mener l'enquête plus largement pour voir comment cette idéologie néolibérale, elle a pénétré aussi les consciences des individus.
Oui, par exemple chez Sephora, quand vous achetez un parfum chez Sephora, vous voyez les parfums Sephora. Eh bien, c'est le Brasma, ami auditeur. Qu'est-ce que c'est le Brasma? C'est bonjour, regard, action, sourire, merci, au revoir. Voilà. C'est ce que doit savoir un employé ou une employée, je pense assez souvent chez Sephora. C'est plutôt des femmes. Voilà, elle doit savoir bonjour, regard, action, sourire, merci, au revoir, Brasma.
Avec des phrases toutes faites.
Il ne faut pas se tromper. Voilà. Et là, c'est un très bon passage parce que on se dit bon, ben voilà, on a fait des progrès quand même par rapport au temps moderne. Hein, Chaplin, le travail à la chaîne, l'abrutissement du travail à la chaîne. Mais là, c'est une autre sorte de domination et de dressage qui joue sur l'intimité de chacun. Hein. Il faut que chacun donne de son intimité. Chaplin, dans les temps modernes, il boulonne le truc, mais bon,
il fout
sa santé en l'air, son corps en l'air, son temps en l'air, c'est quand même déjà beaucoup comme aliénation, mais il peut faire la gueule. Il n'est pas obligé de donner son intimité, de sa vie intime, de son âme, etc. Là, oui.
Pidote Saint-Anne, bonsoir, Marie, à votre service. C'est pour une livraison? Vous venez les chercher. Ça sera quel nom, s'il vous plaît? Vous désirez? D'accord, bien cuite.
C'est parti! Allez, attention, on se bouge!
Il y a un esprit pizza, c'est clair et net. Customer manière. En fait, il s'agit en fait d'aller encore plus loin que Champs, c'est-à-dire de surprendre le client véritablement, c'est-à-dire de lui fournir un service qu'il n'attendait pas. Concrètement, un client qui commande dans sa voiture, qui va venir commander en vente à emporter deux pizzas, il va aller après attendre dans sa voiture parce que c'est instinctif, parce qu'il a envie d'écouter un match de foot ou je sais pas quoi. Instinctivement, nous, plutôt que d'attendre que le client revienne, on va lui apporter ses pizzas dans sa voiture. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Le critère customer manager en lui-même, c'est à l'employé de le fournir. C'est-à-dire que c'est libre. Libre à chacun d'inventer, d'être inventif, d'innover de ce côté-là. Ça s'appelle la charte satisfaction. Tout le monde de la tête aux pieds, du manager jusqu'au employé à temps partiel, 12h, 10h, 15h ou 20h, doit avoir cette attitude de customer manager. C'est clair et net.
Moi, ce qui m'a semblé intéressant là, pour prendre cet exemple d'enquête, c'est que justement, je suis d'accord quand on dit qu'il y a effectivement un soubassement, sans doute idéologique commun, mais que en faisant les enquêtes, moi, j'étais assez surpris de voir que c'était pas forcément que dans les endroits attendus, McDonald's, Sephora, qu'on est exploité, mais qu'on pouvait être exploité au travail dans une association de gauche. Que moi, j'ai fait un article sur les précaires du public. J'ai rencontré une postière qui avait fait 574 CDD en 10 ans. La Poste, c'est 100% public. C'est une entreprise dont le PDG est nommé en Conseil des ministres. C'est-à-dire que quand on va dans l'interne du monde social, on découvre que c'est pas toujours que dans les lieux attendus qu'on trouve les situations les pires.
Oui, une enquête avec très très peu de notes de frais, par exemple à Radio France, vous pouvez faire un petit travail. Ça, il n'y aura pas beaucoup de notes de frais, c'est ici même où on a des suites de CDD, de précaires qui travaillent dans des conditions...
J'ai rencontré une enseignante à l'université qui a été payée pendant 4 ans avec des gommes et des ordinateurs.
Il y a un sociologue américain, Wright Mills, qui avait écrit un livre qui n'est pas beaucoup lu aujourd'hui, mais qui s'appelle « Les cols blancs », où il racontait déjà très bien ça il y a quelques trentaines d'années. Le marché de la personnalité, il racontait comment justement on est en plein là-dedans. Et en même temps, pour rebondir sur cet exemple-là, c'est aussi pourquoi ces jeunes femmes y croient de cette manière. Il y a aussi, il faudrait aller remonter aussi sur à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, dans un certain nombre de sections de l'enseignement, dans certaines classes de BTS, dans certaines classes de terminale, on apprend aux enfants, aux élèves, on apprend ces techniques de gestion. Et il y a donc des formes d'inculcation qui passent aussi par l'école. Ce qui fait qu'effectivement, moi je pense qu'on doit toujours interroger les fonctions sociales de l'école, parce que je ne pense pas que l'école ait forcément comme objectif d'apprendre toutes ces techniques-là. Je pense qu'il faut à la fois apprendre des techniques de présentation de soi peut-être, mais aussi apprendre aussi l'esprit critique.
Alors, quels sont les recours aujourd'hui de ces invisibles? Je rappelle le titre de votre bouquin, La France invisible. Vous êtes tous les trois autour de moi, Stéphane Beau, Jade Lingard et Joseph Confavreux. Vous avez dirigé une série d'auteurs, de journalistes, de chercheurs qui ont apporté toutes ces contributions. Quels sont les recours de ces invisibles? Encore une fois, c'est difficile de les mettre tous dans un même espace, dans un même camp. Chômeurs, RMIs, travailleurs pauvres, sans papier, sans adresse. On connaît toutes ces étiquettes qui essayent qui sont plutôt des discriminations d'ailleurs que des descriptions. Mais quels sont les recours? Parce que le monde qu'on évoquait tout à l'heure avec Stéphane Beau, celui des... Il ne faut pas trop idéaliser non plus. Celui des 30 Glorieuses, il y avait le syndicat. Il y avait une force, là. On pouvait emmerder les patrons, quoi. On pouvait bloquer la machine et on se mettait en grève. Et les riches avaient besoin des pauvres. Aujourd'hui, quel est le recours? Stéphane Beau.
Sur les syndicats, je pense que c'est vraiment important parce que c'est une question qui pas vraiment abordée fréquemment, me semble-t-il. C'est à la fois, ce qui me frappe toujours, c'est ce double discours. D'un côté, y compris politiquement, il nous faut des syndicats forts en France. On regrette l'absence de syndicats forts, pas assez de syndicalisation, etc. Donc, d'un côté, ce discours-là, un peu performatif, il faut plus de syndicats forts. Et de l'autre côté, la vie au jour le jour des syndicalistes, la vie au jour, ces délégués syndicaux qui se font licencier chaque année en nombre de plus en plus important. Les récits aujourd'hui des inspecteurs du travail montrant que le droit du travail est de moins en moins appliqué, et surtout que eux, inspecteurs et contrôleurs, se font de moins en moins, ont moins besoin de moyens pour faire leur travail, voire parfois, comme il s'est passé il y a 2 ans, ils se font assassiner par un patron en colère. Donc là, je pense que sur le syndicat, il y a vraiment, c'est un vieil instrument qui serait à rénover et à remobiliser. Et peut-être aussi, là je pense aussi, parce que je suis enseignant, j'explique toujours à mes étudiants, mais les syndicats, ça sert à vous défendre socialement. Dans le livre, on parle d'un de ces ouvrières de Sochaux qu'on avait vu avec Michel, qui dit, qui vient licencier d'une PME comme une malpropre, propre. Et elle dit, on m'a dit d'aller voir la CGT. Parce qu'il n'y a que ça comme endroit, elle n'était pas syndiquée bien sûr, il n'y avait que ça comme structure pour pouvoir entre guillemets, l'aider à minima. Est-ce que contre un licenciement brut comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y avait aucune structure. Donc là, je pense qu'au niveau syndical, en termes de... Bien sûr, on n'a pas la prétention de résoudre les problèmes sociaux, mais en termes de structure permettant peut-être de, aux gens de se défendre, toutes ces structures-là seraient à relancer, rénover, y compris notamment par rapport au logement. Là, bien sûr, ça dépend, moi je dirais principalement, de, des conditions d'un renouveau de militantisme, non seulement syndical, mais aussi, par exemple, associatif, pour analyser ce qui se passe aujourd'hui dans la rénovation urbaine. C'est très important ce qui se passe avec la destruction des tours et toutes ces familles qu'on laisse dans la nature et qu'on ne reloge pas. Mais la question des actions de locataires, etc. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas conservateur en tant que tel, mais je pense qu'il faut aussi réutiliser ces outils-là de défense collective.
Jade ?
Oui, moi, je dirais que le recours, c'est tout sauf la politique compassionnelle. C'est-à-dire tout sauf le discours compassionnel, dire « Oh, les pauvres, c'est vrai, ils sont très malheureux. Ah, on va essayer d'améliorer leur sort. Donc, on va donner un petit peu plus d'argent, on va essayer de mettre un petit peu plus de moyens. » Mais ça, ça ne marche pas. Ça, c'est la politique de la charité et ça ne répond absolument pas à la question d'invisibilité. Alors... Nous, ce qu'on a essayé de formuler, c'est une petite proposition et c'est un débat, évidemment, qui doit être mené de manière collective. Mais la petite proposition qu'on essaye d'amorcer dans l'introduction, c'est poser la question de l'usager, de défendre la figure de l'usager des institutions, l'usager des politiques publiques. Et dire ça, ça veut dire trouver le moyen, non pas de faire croire à des fausses concertations qui ne sont jamais réelles, où on fait croire aux gens qu'on les écoute et où en réalité c'est de l'habillage un peu bullshit pour faire démocratie participative alors que les gens ne sont pas écoutés, mais au contraire, faire en sorte que quand se fabriquent des politiques publiques en matière de logement, en matière d'accès à l'emploi, en matière d'aménagement spatial, les conséquences concrètes sur la vie quotidienne des personnes soient prises en compte dès ce moment de fabrication de la loi. C'est-à-dire, pas attendre 10 ans après de faire des rapports pour voir si finalement ça s'est bien passé ou pas. C'est, évidemment, il faut faire ce suivi, mais savoir trouver le moyen, ça c'est une adresse directe aux responsables politiques, trouver le moyen d'associer les citoyens, les gens concernés dans la fabrication de ces politiques publiques, ça veut dire trouver le moyen d'associer les chômeurs aux politiques de l'emploi, les locataires de logements sociaux aux politiques de logement social, etc. Et là, on a peut-être un début d'horizon possible, de sortie, de simplement d'un discours de la désolation et du regret, mais d'une contre-proposition politique, active, progressive, et qui permette de sortir ces personnes de leur situation de victime. Parce que, évidemment, le sentiment de victime est le contraire du ressort politique.
Mais non. Mais non. Mais non. On a râlé, réclamé, proposé, imaginé. Mais non. On a rêvé, rigolé, espéré. Mais non. Et défilé. Mais non. On a pleuré, supplié, exigé. Et menacé. Mais non. On a parlé, inventé, expliqué. Mais non. On s'est fait chier. Bon non. On nous a nié, renié, étouffé, assassiné. Mais non. On nous a fermé, bâillonné, humilié. Mais non. Éparpillé, mais non. On a résisté, existé, continué, tout en fierté. Ben oui. On va repenser, nous souhaiter bonne année. Ben oui. On va aimer. Ben oui. Mais oui. Mais oui. Bah oui. vous parlez, vous disiez tout à l'heure, écoutez la souffrance sociale, ce serait plutôt de gauche, mais vous avez un chapitre qui est très intéressant sur la psychologisation de la question sociale, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, si vous avez vous appartenez à l'une de ces catégories souffrantes et invisibles, eh ben, c'est que vous avez des problèmes psychologiques. Voilà. Alors donc, on va vous écouter. Là, je vous écoute, vous me racontez votre truc. Je vais vous écouter le temps qu'il faudra, parce que je suis payé pour ça. Cellule psychologique, quoi.
Ça s'est développé, c'est une réponse à minima, enfin c'est une fausse réponse. Moi, ce qui m'a frappé, notamment en faisant l'enquête sur le RMI, qui est bon, le truc qu'on connaît, quoi, le RMI, ça augmente et tout, c'est non seulement les situations, mais c'est à quel point les réponses institutionnelles, justement, sont inadaptées. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une femme qui vit à Bobigny, dans des conditions, mais son appartement, elle a deux enfants, un gamin de 5 ans, une gamine de 2 ans, elle est obligée de faire un gâteau, où elle met deux bougies, sa fille souffle, puis ensuite elle remet 5 bougies, et là le garçon souffle, alors qu'ils sont à 3 mois d'écart, hein. Mais la petite fille, elle a 2 ans, elle ne se rend pas compte, parce qu'elle ne peut pas se payer deux gâteaux dans l'année d'anniversaire. Et ce qui est surprenant, et ce qui est aujourd'hui, à mon avis, un des gros problèmes complètement évacués, c'est à quel point de plus en plus de gens n'ont plus recours à l'aide sociale, n'ont plus recours au RMI. On parle toujours des fraudeurs du RMI, mais il y a sans doute beaucoup plus de gens qui pourraient toucher le RMI qui ne touchent pas parce que c'est trop compliqué, c'est humiliant, c'est difficile. Et cette évacuation du fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être 5-10% des ayants droits sociaux qui ne s'intéressent plus à ce qui pourrait être une aide, à mon avis, c'est un signe majeur de la désaffiliation sociale.
Il faut conclure, le bouquin est énorme. Je le rappelle,
mais très lisible et très visible.
C'est très lisible et très visible. Évidemment, c'est pas innocent, je suppose, de sortir un tel bouquin cette année.
Bah bon, sans présumer évidemment des effets toujours limités que sont ceux d'un livre ou peuvent être ceux d'un livre, nous on croit vraiment que cette campagne va se faire sur un malentendu. Et ce malentendu est le suivant, c'est-à-dire qu'on va voir des candidats assénés à tour de meeting et d'interventions télé, voilà comment sont les Français. L'opinion publique veut ou ne veut pas l'entrée de la Turquie en Europe, l'opinion publique veut plus de sécurité, l'opinion publique est inquiète, les Français sont ainsi, et nous, on est assez certains que ces Français dont parlent, ce personnage des Français dont parlent ces candidats n'existent pas. En tout cas, n'existent pas tel que eux se le représentent. Moi, je suis assez frappée par la manière dont les responsables politiques écoutent, entendent ou n'entendent pas le monde social. L'un des conseillers d'un présidentiable possible pour 2007 que nous avons rencontré nous a expliqué que...
Il s'agit de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que vous décrivez vous décrivez dans votre bouquin comment Sarkozy est conseillé sur ce plan-là, sur le plan social.
En l'occurrence, je ne pensais pas au conseiller de Sarkozy, mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy a deux cellules. Qui s'appelle Innovation et Prospective, l'appellation est formidable, à l'UMP et au ministère de l'Intérieur, et qui sont chargés de lire, de lui faire des fiches sur ce qui sort pour l'informer sur le social. En l'occurrence, je pensais au conseiller idée de Laurent Fabius, pour le nommer, et qui nous explique que, bon oui, pourquoi pas, les bouquins à sciences sociales, c'est pas inutile, effectivement. Enfin, quand même, le meilleur mode d'expression de la société et le meilleur moyen de connaissance de la société, c'est les mobilisations. C'est les manifestations. Et là, on se dit, il y a vraiment un problème. Parce que ces invisibles-là, précisément, ne vont jamais manifester. Mmh. À cause de leur manque d'estime de soi, de leur manque de culture politique, de leur sentiment d'illégitimité. Et donc, s'il y a des invisibles, c'est pas parce que, simplement, ils ne s'expriment pas, c'est parce qu'ils ne sont pas regardés. C'est là où la question qui se pose est pour nous vraiment une question d'urgence, et le mot n'est pas exagéré, qui est celui de trouver les dispositifs adéquats pour percer cette complexité du monde social.
Merci à Jade Lingard, Stéphane Beau et Joseph Confavreux, leur bouquin « La France invisible » à lire absolument, ça sort aujourd'hui même aux éditions de La Découverte. Ne pas oublier le bouquin de Jacques Cotta qu'on a reçu cet an dernier, « 7 millions de travailleurs pauvres » aux éditions Fayard. Et puis, préparez-vous lundi 16 octobre, au concert citoyen du collectif Aux urnes, etc., au Zénith de Paris, à partir de 18h. On y sera avec l'équipe de La Basse Si J'y Suis, ce collectif autour du groupe Les Ogres de Barbac vont se lancer dans une tournée de septembre à mai prochain sur le thème Aux urnes, etc., pour se réapproprier le débat démocratique. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, à la rubrique émission de La Basse Si J'y Suis. Technique aujourd'hui, Joël Antena et Anne-Laure Cochet. C'est Yann Chouquet et Koïm Bien qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Assisté de Pascal Le, Pascal Yello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Et surtout, surtout, n'oubliez pas Politis, l'hebdomadaire Politis qu'il faut absolument sauver. Il reste 10 jours, c'est pour politis@orange.fr.